Morning Business, le débrief de la matinale.
Le débrief qui, vous imaginez, s'est poursuivi pendant la publicité, parce que Alain et Emmanuel ne sont pas vraiment d'accord sur les objectifs climatiques et le rythme. Le rythme de la décarbonation de notre économie, on en parlera tout à l'heure. Ne restez vraiment avec nous. On va commencer quand même par parler du G7, puisque tous les dirigeants sont arrivés à Hiroshima, à commencer par Emmanuel Macron, qui est dans une posture un peu... Je ne sais pas si elle est délicate, Benahouda, mais en tout cas, le fait que ce G7 devienne un G7 anti-Chine, ça ne plaît pas complètement à la France. Alors, est-ce que c'est de la com' là aussi, ou est-ce qu'effectivement, on peut jouer un rôle un peu plus intermédiaire entre la Chine et les États-Unis?
C'est le rôle historique de la France d'être le médiateur entre l'Occident et l'Orient. Rôle que ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a inventé. D'ailleurs, la chef de la diplomatie, Catherine Colonna, a expliqué qu'il ne serait pas adéquat qu'un ministre français se rende à Taïwan, ce qui montre encore une fois une distance par rapport à tout le propos américain. Mais effectivement, c'est ce G7 qui est devenu une forme de contre la Chine, qui est vraiment frappant. Mais en se posant toujours les questions de est-ce que il se donne vraiment les moyens de sa politique. Il faut quand même se souvenir que l'été dernier, il y a eu un G7 en Allemagne où il était promis un partenariat sur les infrastructures et les investissements dans les pays en développement doté de 600 milliards de dollars. Et ce matin, il y a un éditorialiste chinois de la presse officielle qui demande où sont les routes, les ponts et les aéroports promis par les Occidentaux aux Africains. C'était il y a seulement un an. Mais il y a toujours ce décalage extraordinaire entre l'impulsion dans le discours public et puis la réalité des initiatives du G7 vis-à-vis des pays en développement, du Sud global, dans cette concurrence acharnée que sont en train de se livrer les États-Unis et le bloc occidental et la Chine vis-à-vis de ce Sud global.
Alors justement, ce rééquilibrage des positions par rapport à la Chine, elle a été évoquée il y a quelques minutes dans la matinale avec Jean-François Di Miglio, le président d'Asia Centre.
Tous ces membres du G7 ne sont pas totalement alignés entre eux, naturellement. On sait que la position de la France vis-à-vis de la Chine est, le moins qu'on puisse dire, ambiguë à la suite de la visite du président Macron. Et si elle n'est pas ambiguë, en tout cas, elle plaide pour l'autonomie stratégique, même si cette autonomie stratégique n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour et qu'il nous faudra 2 ou 3 ans pour la construire. On voit donc que c'est un G7, bien sûr, qui irrite et qui est identifié par la Chine comme anti-Chine, mais qui est un G7 probablement moins unifié qu'il n'y paraît lorsqu'on entend les déclarations.
Alors Emmanuel, est-ce que il faut couper le cordon avec la Chine ?
C'est très compliqué parce qu'on est sur le plan géopolitique, on est dans une configuration qu'on a déjà connue dans le passé, c'est-à-dire deux grands blocs puissants qui commencent à s'affronter, les États-Unis, la Chine, l'Europe au milieu, et puis ce qu'à un moment on a appelé le tiers-monde entre guillemets et qui est en fait le monde autre, le monde qui reste, et effectivement des luttes d'influence comme on en a connu au moment de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Et ça, sur le plan géopolitique, on connaît la grande différence, c'est la dimension économique qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que au moment de la guerre froide entre l'Occident et la Russie et les pays satellites, finalement, le cordon économique, il était déjà coupé. Il y avait très peu de relations économiques entre les deux. Or, aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas. La Chine fabrique pour le monde entier, finance avec son épargne l'endettement de pays occidentaux et notamment les États-Unis. Alors certes, on est en train de voir quand même une forme d'éloignement progressif avec deux énormes blocs qui se constituent avec chacun leur zone d'influence, leur technologie, leurs règles aussi progressivement. Et ça, c'est peut-être le monde qui est en train de se dessiner, ce monde des deux grands blocs parallèles. Mais ce sera difficile de couper vraiment avec la Chine.
Alain Pitou,
J'ai quelques idées là-dessus. C'est en fait la première chose, si vous êtes une entreprise, vous êtes très dépendant de la Chine. Je pense qu'il faut largement commencer un peu comme font beaucoup d'entreprises américaines à se diversifier, c'est-à-dire aller construire des usines un peu à droite à gauche en Asie pour éviter d'être trop dépendant le jour où ça tournera mal, parce qu'à un moment donné, on a quand même une période où ça pourrait tourner assez mal géopolitiquement et avec tous les risques que ça comporte. Donc ça, c'est le premier point. Vous êtes investisseur, vaut mieux acheter des entreprises qui bénéficie de la croissance chinoise que d'acheter des actions chinoises. Ça, je pense que d'acheter des actions chinoises, c'est un non-sens pour un investisseur particulier, pour beaucoup d'investisseurs. Je ne parle pas de ceux qui sont obligés de faire des allocations internationales. Ça, c'est un autre sujet.
Donc, il faut mieux acheter du luxe, par exemple, français.
Bah, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est du luxe ou des entreprises qui bénéficient de la croissance là-bas. Et puis, le dernier point, c'est regarder les rééquilibrages qui se fait dans la zone. Et les Japonais, on voit beaucoup de déclarations disant faut y aller, les sanctions contre la Russie, ouais. faut y aller.
Vous avez
contre
vu,
la Chine,
dans les semi-conducteurs, ils, viennent
ils en profitent énormément. Donc, ouais. Et il y a le rééquilibrage. On voit la bourse, même la bourse japonaise qui était quand même très en retard depuis des années, qui reprend un peu de vigueur parce que bah, ils se mettent à l'occidental sur la gouvernance.
Si on va un peu plus loin, il y a l'Inde aussi qui est en train d'accueillir des usines.
Oui, l'Inde, mais ils partent de plus bas aussi quand même. Hein, donc, sur le plan économique, c'est quand même pas le Japon. Donc voilà, c'est quelques grands thèmes. Et puis avec aussi, faut garder à l'esprit ce qui s'est passé au moment où ça a craqué, au moment où la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine. Beaucoup d'entreprises ont pris des pertes énormes en étant investies en Russie. Ça a fait beaucoup réfléchir. C'est quand même très récent. Et puis le dernier point, et je finirai là-dessus, c'est l'attitude chinoise. Et on évoquait les infrastructures. Les Chinois mettent en place des infrastructures dans beaucoup de pays en Afrique et pour faire directement de la mine au port pour emmener des bateaux en Chine. Donc ça, ils sont assez forts pour ça. Donc là aussi, il faut réfléchir à se positionner en Afrique par rapport à eux.
Ben Aouda, dérisqué, mais pas découplé.
La plus forte illustration qu'on peut avoir ce matin de ces dissensions au sein du G7, c'est une interview qu'a donnée au Financial Times le directeur de la gestion d'Amundi. Amundi, c'est entreprise française, le plus gros gestionnaire d'actifs d'Europe, qui dit clairement et sans détour qu'ils sont en train de transférer des actifs des États-Unis vers la Chine.
Ah oui?
Exactement, qui disent que les États-Unis ne doivent pas sous-estimer la capacité qu'a la Chine de riposter, d'escalader, puis de négocier. Et au-delà de ça, ils conseillent même d'aller faire la recherche aux obligations d'entreprise chinoises, qui sont plus intéressantes que les obligations d'entreprise américaines.
Oui.
Et il dit clairement qu'il faut aller de l'ouest vers l'est. Mmh. Et c'est le directeur de la gestion d'Amundi. Encore une fois, pour rappel, plus gros gestionnaire d'actifs d'Europe.
C'est pas très ESG, ça. Hein.
Non, pas trop, mais bon.
Et que Alain Pitou connaît cette maison d'ailleurs.
Oui, non, mais donc voilà, j'écoute toujours ce qu'ils disent parce que ils ont quand même des raisonnements long terme qui sont souvent assez pertinents. Mais là, je suis en désaccord. Bon, après, je suis une goutte d'eau par rapport à eux.
Bon, allez, l'autre ennemi du G7, c'est évidemment la Russie. Nouveau train de sanctions, comme le rappelait Pauline. On va demander à Aude Kersulek de nous dire un petit peu tout ce qui est visé, tout ce qui est dans le viseur du G7 concernant la Russie.
Alors, dans la foulée du Royaume-Uni, l'Union européenne vient de décider d'une limitation du commerce des diamants russes. Jusqu'à récemment, la Belgique et le lobby d'Anvers s'y opposaient. Les Occidentaux devraient mettre en place une meilleure traçabilité, hein, car le problème, c'est que beaucoup de diamants russes transitent par l'Inde pour y être transformés. Et c'est le cas aussi du pétrole russe, hein, avec l'Inde qui importe beaucoup de brut russe, hein, dans des proportions bien plus considérables qu'avant la guerre, et à prix bradé, $44 le baril. Elle en exporte aussi plus qu'avant vers l'Union européenne. Il y a donc un nouvel embargo à attendre sur les produits à base de pétrole russe, mais raffinés dans des pays tiers. D'autres pays sont également accusés de contourner les sanctions. Le Kazakhstan, qui exporte des biens électroniques utilisables par l'armée russe, ou la Syrie, qui exporte vers l'Occident du phosphate via des sociétés détenues par des oligarques russes. Et en ce qui concerne le gaz, les arrivées par gazoduc se sont taries, hein, du fait de la Russie, mais l'Europe importe toujours du GNL russe, dans le respect des règles européennes, ainsi que de l'uranium indispensable pour les activités nucléaires.
Merci beaucoup, Aude. Ben Aouda, ce nouveau train de sanctions, on cible quand même toujours pas l'uranium, on cible toujours pas le gaz. On pointe quand même avec les diamants certains secteurs qui restent. On pointe du diamant, exactement.
Pas mal.
des secteurs stratégiques pour la Russie.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la diplomatie indienne qui le dit. Si vous voulez aller au bout de votre logique et vous en faites une affaire de principe, vous cessez d'acheter du diesel aux Indiens qui est du pétrole russe transformé. Mm-hmm. Et vous expliquez aux Européens qui vont à la pompe à essence tout à l'heure ou cet été pour aller en vacances, que leur litre de diesel sera 3 à 4 euros. Et là, de ce point de vue-là, politiquement, ça sera une autre affaire que de cibler les diamants d'Anvers ou des Émirats Arabes Unis.
Mais ça serait bien, le gasoil à 3 ou 4 euros, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais enfin, en termes de signal prix, là, on est en train, avec le contre-choc dont on va parler aussi.
Oui, en fait, on sait tous que ça se passerait pas comme ça, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on laisserait le pétrole, enfin, le baril, enfin, pardon, le niveau de l'huile d'essence à un prix donné, puis ça serait l'État qui financerait, et après, on le retrouverait dans nos
impôts.
Un beau jour, quoi. En fait, je trouve que la manière dont ça s'est fait est plutôt intelligente. Alors, c'est très énervant parce que c'est assez hypocrite, hein, mais les Russes ont besoin de vendre leurs matières premières, quelles qu'elles soient, et puis nous, on a besoin d'un certain nombre de matières premières pendant un certain temps. Et là, on a trouvé le moyen, sur le GNL, par exemple, de s'approvisionner ailleurs, et on va le couper progressivement, l'approvisionnement de cette énergie. Donc, en fait, et le reste, on les a quand même bien contingentés. Les Russes, ils ont une économie qui est en train de partir dans le décor, parce que si on regarde en sortie de crise, ce qui se passera, c'est que on va partir d'une économie russe qui est complètement effondrée sur les productions de véhicules, de plein de choses qui sont aujourd'hui complètement à l'arrêt. Alors on a l'économie de guerre qui permet à la Russie de compenser sur certains points, et puis on a la communication aussi, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises russes ne sont plus obligées de communiquer leurs résultats, leurs chiffres, donc on a une économie russe qui en réalité est à l'arrêt. Alors ça se voit pas aujourd'hui totalement, encore une fois, à cause de cette économie de guerre, mais les sanctions européennes et mondiales font extrêmement mal à la Russie.
Emmanuel.
Bah, les sanctions, ça marche toujours sur le plan économique, ça marche pas toujours et même rarement sur le plan politique. L'effet des embargos, il est mécanique. Alors il faut bien comprendre que, d'ailleurs, ça relève plus de l'empoisonnement lent que de la crise cardiaque. Hein. C'est pas parce que vous décrétez un embargo que paf, le pays va tomber à l'arrêt, le pays vous sanctionnez. Non, mais c'est vraiment un poison lent. Et on le voit se diffuser dans l'économie russe, on le voit sur tous les types de production. Le pétrole, ils en vendent toujours plus, mais ils le vendent quand même moins cher. Le problème, c'est que on voit bien tous les effets que ça provoque, mais c'est à chaque fois la même chose. Il y a 40 embargos, je crois, à peu près, dans le monde. Aujourd'hui, la France participe à presque 25, je crois, et les effets économiques, c'est à peu près toujours les mêmes. Vous désorganisez l'économie du pays sanctionné, vous provoquez de l'inflation, vous fabriquez du chômage, vous fabriquez de l'inflation, vous fabriquez plus de pauvreté. La réalité, c'est qu'en général, les pouvoirs politiques à la tête de ces États, finalement, on s'en moque. Et que du coup, l'impact politique, il est faible. Regardez ce qui s'est passé à Cuba, par exemple. Bah, on peut pas dire que l'économie cubaine a été est vraiment devenue... elle est exsangue, quand on voit ce que ça a été à un moment. N'empêche qu'on en est toujours au même point. Et ça a été le cas aussi pour beaucoup de pays comme l'Iran ou la Corée du Nord. Mmh. Donc, c'est vrai que sur le plan économique, ça marche. Oui, ça affaiblit le pays. Sur le plan politique, c'est plus contrasté.
Deux points, même sur le plan économique, c'est à revoir. Si vous allez en Iran, à Téhéran, ce qui a été mon cas pour un reportage, vous vous rendez compte que ça suscite la création d'une industrie nationale,
ouais,
alternative, du dentifrice, du shampoing, des voitures locales. Premier point. Mais effectivement, concernant la Russie, au-delà des effets délétères sur l'économie, c'est que ça crée un climat que constatent eux-mêmes les Russes de négatif. Le vice-président de l'Académie des sciences de Russie a dit hier que sur les 5 dernières années, plus de 50 000 chercheurs scientifiques ont quitté le pays. Mmh. Donc c'est la base de créativité,
vitale.
La force vitale, qui est en train de s'effondrer. Et c'est peut-être ça le plus grave pour la Russie. Ce n'est pas, ce ne sont pas, somme toute, les niveaux de certaines productions actuelles.
Alors, en tout cas, les conséquences, hein, effectivement, de cet embargo sur les produits russes, la diversification des sources d'approvisionnement, le GNL, notamment américain, qui est quand même du gaz de schiste, il faut le rappeler, tout ça a eu un effet sur les prix du gaz, puisqu'on a appris tout à l'heure que le prix du gaz pour l'Europe était passé sous la barre des 30 euros le mégawattheure pour le GNL. On est revenu au niveau d'il y avant 2 ans. Alors évidemment, ça va avoir un impact positif sur l'économie mondiale. On écoute ce que nous disait Philippe Bechter, chef économiste d'Astrom Asset Management, il y a quelques minutes sur ce plateau.
ça va avoir une conséquence immédiate, c'est que les taux d'inflation vont continuer de baisser, probablement un peu plus vite qu'on l'imagine. Les contrats d'énergie qui vont être signés par les entreprises à partir de l'automne vont se faire à des prix beaucoup plus bas, et donc la dynamique de l'inflation va changer d'allure et au bénéfice des consommateurs qui vont gagner du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un facteur qui, pour l'année 2024, pourrait jouer de façon beaucoup plus favorable. Ça fait référence un petit peu au contre-choc pétrolier qu'on avait eu en 1986. Ça date un petit peu, mais c'était une période qui avait été plutôt soutenue sur le plan économique.
Alain Pitou, ce contre-choc pétrolier pour 2024, vous le voyez comment ? C'est une bonne nouvelle parce que ça va relancer l'économie, ou finalement ça va nous retarder dans notre transition énergétique parce qu'on ne va pas vraiment changer nos comportements ?
Non, je pense l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est une bonne nouvelle pour l'économie, pour les industriels surtout, je pense plutôt que pour les particuliers d'ailleurs. Je pense qu'on s'est quand même fait peur. Et la philosophie, la prise de conscience est enclenchée. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est aussi qui était intéressant dans la hausse du pétrole qu'il y a eu ces derniers temps, enfin avant la rebaisse récente, mais c'est aussi de montrer que l'économie n'a pas été autant perturbée que précédemment. C'est-à-dire que on a quand même une dépendance aux hydrocarbures qui commence à baisser. Alors, Emmanuel trouve que c'est très bien parce que ça va très lentement et ça nous permet de continuer comme ça, ne changeons rien. Mais la réalité, c'est que les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que tout le bâtiment, le transport, prennent en compte un pétrole, une énergie plus chère. Donc,
c'était un électrochoc.
C'est quand même un électrochoc et ça active quand même beaucoup. Donc, je pense que c'est plutôt positif, même si bon, il y a des aléas sur les prix.
Un électrochoc, sauf pour le chiffre.
Oui, oui.
Non, mais le but du jeu, c'est absolument pas de se réjouir qu'il ne faut rien changer et que tout ce qu'il y a. Non, ce que vous ne voulez pas voir, mais comme tous les gens qui veulent nous vendre la transition énergétique à tout prix, c'est que il y a une inertie des comportements qui n'est pas celle des investisseurs. Donc Alain, il dit oui, mais regarde,
mais c'est faux, mais l'inertie des comportements. Regardez,
mais l'inertie des comportements, c'est que l'année la plus forte de toute l'histoire de l'humanité pour la consommation de charbon, c'est 2022, et que l'année la plus forte pour la consommation de pétrole, ce sera 2023, et que ce sera sans doute encore après 2023, 2024. C'est-à-dire qu'il y a une inertie dans le monde.
Mais c'est pas bien, Manuel. C'est pas bien.
Mais ça n'est pas. C'est pas que c'est pas bien. C'est que si on ne trouve pas les moyens, parce que c'est plus un problème aujourd'hui de répartition des moyens, parce que moi je suis d'accord avec l'idée que globalement au niveau macroéconomique mondial il y a les moyens de financer cette transition. La vraie question, ça devrait être celle-là, mais ça devrait pas être d'abord de se demander si on arrête ou pas. Je veux dire, le pétrole, on va en avoir besoin pendant des années. Et ce que moi j'essaye de dire, c'est que si on ne garantit pas notre approvisionnement en hydrocarbures dans la période de transition, où il faut évidemment développer les énergies renouvelables, on aura une crise telle que même la transition énergétique sera compromise.
On pourra pas la financer. Ouais.
Mais voilà, c'est ça qui
est. C'est une course contre la montre en même temps.
Oui. Et puis le signal prix, il faut arrêter avec le signal prix. C'est bien beau, mais je veux dire, quand vous avez des prix qui font 20 ou 30% de fluctuations par an, c'est pas ça un signal prix. Le signal prix, c'est d'envoyer quelque chose qui soit sur la durée, qui permette d'anticiper effectivement les comportements. Et ça, ce sera un vrai signal prix. Mais
alors,
pas des
5 secondes.
Je regarde les investisseurs. C'est-à-dire que les investisseurs qui raisonnent à long terme, avec une économie qui est telle qu'elle est, mais des prix qui vont avoir du mal, il ne faut pas investir dans ce genre de support.
Ben, c'est pas vrai, ça veut dire qu'on n'aura pas le pétrole dont on aura besoin, et ce sera une crise incroyable.
Allez, beau débat sur ce plateau.